Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people duck.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Préciser.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue à une nouvelle semaine de Manches sur, toujours avec notre questionnement sur la composition. Et ce sont des épisodes où nous cherchons à essayer de comprendre ce complexe concept qui est la composition en danse contemporaine, toujours à l'aide de Laurence Loupe, avec sa merveilleuse prose qui nous aide, qui nous guide dans la compréhension de quelque chose qui est très passionnant pour les personnes qui aiment la danse de façon amateur, mais aussi professionnelle. Et c'est ça qui nous réunit. Donc, de quelle chirurgie nous parlerons aujourd'hui, sachant que c'est toujours une question entre la résonance et la fonctionnalité, dans ces raisons invisibles qui est le corps, qui est très complexe et très vaste, mais qui nous permet de décortiquer comment les personnes se réunissent pour danser, quelle est la motivation qui les réunit, comment est-ce qu'ils arrivent à composer, à partir de quels éléments, à partir de quelles réflexions, quel angle on va prendre pour créer ensemble dans un moment donné, et à partir de quel projet, de quelle idée, etc. Et donc aujourd'hui, on continue cet épisode de la composition avec l'intervention du grand maître de la composition, de Alvin Nikolaïs, qui est issu de l'école allemande et dont beaucoup de chorégraphes ont été des étudiants, des élèves de Alvin Nikolaïs, qui, pour sa part, était proposé comme... était opposé, complètement opposé à l'anthropocentrisme, c'est-à-dire à voir que la danse ne révélait que de l'humain, et savoir que il y a beaucoup d'autres courants qui ont proposé justement de sortir de cet anthropocentrisme, parce que par exemple la moderne danse, quand on a vu certains chorégraphes de la moderne danse sont très centrés justement sur l'humain, sur qu'est-ce qui se passe de l'humain, qu'est-ce qu'il pense de l'humain, sachant que la danse est là aussi d'autres sources, si on peut le dire comme ça. Je pense notamment par exemple au mouvement des planètes par exemple, ou à la danse des abeilles, ou dans la nature, il y a beaucoup d'exemples de mouvements qui ne sont pas produits par l'humain et qui sont aussi intéressants à regarder, intéressants à analyser. Et donc Nikolaïs parle justement essaye de s'opposer à cette moderne danse, à ces principes de toujours rester centré sur le corps humain et le corps du danseur, sachant que bien évidemment le corps du danseur c'est la production. Comme on l'avait vu la dernière fois, c'est un producteur. C'est pas que le chorégraphe qui produit, c'est le corps du danseur, c'est ce regard un peu déplacé de ce corps qui est sujet et qui propose une proposition qui a changé un peu cette réflexion. Et donc on réfléchit toujours à cette errance de ces corps qui se promène, qui bouge, qui se développe dans un espace donné. Et donc c'est grâce à ces regards chorégraphiques qui va nous permettre de décentraliser les temps et l'espace, c'est-à-dire de pouvoir comprendre que nous ne sommes pas les centres du monde et qu'il y a d'autres possibilités et d'autres centres pour pouvoir parler du mouvement dans la danse. Il y a bien évidemment les côtés, l'aspect autobiographique qui joue un rôle parfois très prépondérant pour certains chorégraphes où d'autres ils vont dire absolument pas. C'est-à-dire que le chorégraphe peut prendre la décision de dire je fais que des éléments de ma vie personnelle, de mon histoire, puissent être présents dans la composition, et d'autres vont dire pas du tout, ma vie personnelle n'a rien à voir avec ce que je vais sur les plateaux. Et donc là, il y a un élément assez, assez intéressant, assez important, de est-ce qu'on permet cette frontière entre la vie privée et la vie publique, ou est-ce que pas du tout est intéressant pour le spectateur. Et donc la question, c'est toujours intéressant de se la poser, quelle partie et de quels moyens ça va être utilisé, sachant que c'est souvent les cas, on voit souvent des chorégraphes qui se proposent à faire intervenir leur vie personnelle ou leur histoire plutôt que leur vie personnelle, leur histoire, leurs origines, dans son implication dans une composition X. Toujours est-il que de ce qu'il s'agit, c'est de trouver sa propre voie. C'est là où on trouve le tissage de la composition, c'est quand ce sujet-là, qui est intéressé par la danse, va tisser petit à petit avec ses expériences personnelles et sa capacité de création, un discours cohérent, un discours ou un discours incohérent, pourquoi pas, mais qui donne sens et qui donne une sorte de chemin et des voies à sa recherche et à ses propositions. Et Laurence Loupe nomme aussi Christian Bourigo avec une citation au début du chapitre. Je vais juste la lire. On avait commencé cet épisode de la composition avec une citation de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Et en dessous de cette citation, il y a l'autre citation de Christian Bourigo qui dit « Composer, c'est transformer les tensions en signes. » Et donc c'est la matière, c'est composant elle-même à travers le corps du danseur, parce que c'est dans le corps où il y a des tensions qui, à travers ces tensions, ces lignes de tension, ces lignes de force, va pouvoir être composé un message qui va être en signe. Et donc, est-ce qu'on donne une structure à tout ça? Est-ce qu'il y a une lisibilité à tout ça? Ou on va plutôt jouer la carte de l'opacité, de tout couvrir avec des voiles ou avec une fumée qui nous empêchera de voir clairement les lignes, les silhouettes des dites écritures. Donc c'est ça les questionnements de la composition, c'est de savoir par où les structures, comment et à partir de quels éléments on va permettre une lisibilité aux spectateurs, ou à partir de quelles frontières on va essayer de faire perdre le repère aux spectateurs. C'est aussi une possibilité. Et donc c'est là où il y a un aspect assez intéressant de la danse, c'est que aujourd'hui on le voit de plus en plus, c'est un travail à plusieurs. Et dans les autres disciplines, ceci n'est pas tout à fait possible. On pense par exemple à l'image d'un écrivain. Un écrivain ne va pas forcément permettre que quelqu'un vienne poser des mots sur son cahier. Et un compositeur de musique encore moins, c'est-à-dire comment il va permettre que quelqu'un vienne écrire sa musique. Donc il y a des disciplines où le médium, c'est-à-dire la musique ou la littérature, ne pourront pas permettre ce type de création collective, si on peut l'appeler comme ça, comme le grand maître colombien Santiago García l'appelait, dans les théâtres. Dans la danse, c'est quelque chose de quotidien. C'est un travail qui est fait à plusieurs. C'est un travail qui implique l'énergie de pas seulement un cerveau ou une jambe, mais de plusieurs corps. Et donc, ça, c'est quelque chose de quotidien dans la danse, que dans les autres disciplines, ça serait ça provoque toujours un problème intéressant, ces travails collectifs, ce travail d'ensemble. Et donc là, on parle de devoirs partager l'impartageable. C'est-à-dire, quand on disait qu'une personne est invitée à poser des notes sur l'écriture d'un compositeur, il y a un problème extrêmement politique à vouloir partager des choses qui sont habituellement pas en capacité d'être partagées. Et la danse, justement pour cette décentralisation qu'on parlait tout à l'heure, elle nous permet de poser des questions là où c'est important, où ça devient politique, où ça devient révélateur de ces mécanismes de notre société, de comment nous agissons, de comment nous faisons les choses. Et c'est là où ça devient intéressant, cette histoire de la composition, parce que ça touche ces failles de nos comportements ou de nos façons de cohabiter. Et c'est pourquoi beaucoup de projets chorégraphiques attirent notre attention, parce que justement ça provoque notre regard, ça nous sensibilise à ces types de situations où on va devoir partager l'impartageable. Même dans les cas d'un solo, par exemple, Laurence Loupe nous rappelle qu'il y a le solo, il y a soi-même, et après il y a le partenaire invisible appelé par Marie Wegman. Donc même pour un solo, il y a déjà trois choses, il y a déjà trois personnes. Donc on est vraiment même dans la situation d'un solo, déjà adressé à trois entités. Donc voilà pourquoi dans cette discipline de la danse et sa nature même, elle nous oblige à toujours à être dans une pluralité, la redondance obligatoire, une obligatorité dans cette présence est multiple. La réflexion peut continuer aussi dans un autre sens, peut-être dans le sens philosophique de ce corps, de cet être qui est toujours en mouvement, qui est toujours en train de se produire en in vivo, en live. Et c'est un investissement, c'est une réelle question de personnes qui sont dedans. Et qui, sur le moment présent même, ils sont en train de produire quelque chose. Donc c'est ça aussi un peu la différence avec les autres disciplines artistiques, c'est cette chair qui est dans une actualité permanente des productions et des créations. C'est à ces moments-là que ça se passe, et dans les autres disciplines, il y a peut-être quelque chose du prévu. La partition est déjà prévue, tandis que dans la danse c'est plus courant de travailler par exemple dans quelque chose d'improvisation ou quelque chose qui est dans le risque de pouvoir se détruire ou de mal finir, parce que c'est justement la chance mais aussi la prise de risque qui comporte la danse. Donc voilà pourquoi est aussi important de se poser la question sur est-ce qu'on va l'écrire en amont, par exemple des travaux comme Dominique Bowie et Lucinda Childs ont été écrits à l'avance, ils écrivaient en solo, ils travaillaient à part avec une écriture sur papier pour pouvoir après le proposer à leur groupe. Tandis qu'il y a d'autres chorégraphes qui vont faire absolument tout le contraire. Ils vont d'abord travailler en équipe, en groupe, ils vont d'abord se rencontrer et produire quelque chose ensemble pour après l'écrire. Donc c'est là la richesse de ce type de composition, de voir à quel moment l'écriture va se passer et de quelle manière, parce que ça peut aussi... Le papier peut être quelque chose On peut éviter les papiers, on peut juste travailler avec les corps et les travails de la mémoire corporelle sans passer par les papiers. Ça, c'est aussi un autre aspect qui est possible. Et rappelez-vous que toute cette réflexion est importante pas seulement pour les personnes qui sont en construction ou en création, mais c'est aussi une façon d'amener la réflexion toujours à nos corps, nous les habitants de la ville, nous les habitants du monde, parce que cette émission s'adresse bien évidemment à tout le monde de façon générale, parce qu'il y a, un intérêt à faire attention à nos corps, à toujours nous maintenir dans une réflexion collective de comment nous produisons, comment nous composons un paysage. Par exemple, je me promène dans une place et je fais partie de ce paysage. Comment je joue aussi un rôle dans cet univers. C'est peut-être une réflexion un peu farfelue, mais qui vaut la peine d'être posée. Et donc, on va faire une petite pause musicale avec notre chère Alice qui va nous proposer... bon, c'est moi qui propose, mais... On va écouter un extrait. Avec cette musique très planante et très universelle, on a l'impression d'être de l'autre côté de l'univers, dans un vide sidéral. Nous continuons cette réflexion sur la composition en danse contemporaine dans l'émission Le Monde Chaussure, avec l'idée justement de cet infini, de comment la composition est justement allée dans les limites de l'inconnu et de ce cheminement vers un infini, c'est-à-dire un dépassement de ce que nous connaissons ou de ce que nous croyons connaître de notre corps, Toujours dans cet aspect très sensible, intuitif, cognitif, performatif et kinesthésique, qui interroge notre façon, notre corps, nos actions et nos muscles, nos tendons, nos os. Et parce que c'est très riche et très vaste ce que notre corps peut nous apprendre, nous dire et nous informer de la vie elle-même. Je suis convaincu que dans notre corps, il y a des réponses auxquelles on n'a pas encore, auxquelles la science n'a pas encore donné de réponses, mais qui sont à l'intérieur de nos mouvements. Et donc, on parlait de l'écriture. Est-ce qu'il faut écrire avant, il faut l'écrire après la création? Et justement, la proposition de Merce Cunningham, ce chorégraphe américain, qui avait fait du hasard un élément important de ses créations, de l'aléatoire. Et dans sa proposition, il s'agissait de donner place à l'imagination, à pouvoir la libérer de l'encombrement des stéréotypes, des structures qui sont là, profondes, des structures de l'ordinaire, par exemple, les structures sociales, les structures de la danse elle-même, c'est-à-dire la danse qu'on apprend à l'école, des danses, la danse qu'on apprend de façon traditionnelle, aussi de notre histoire, aussi de notre constitution culturelle. Donc il y a un souhait justement de donner au corps la place de pouvoir exprimer, de pouvoir extirper tous ces types de détermination qui nous constituent, qui nous cèdent, mais qui sont aussi une limite dans l'information profonde qui est dans notre âme, si on ose dire, on ose utiliser ces termes. Et donc, évidemment, c'est un travail qui est inscrit dans une recherche profonde de comment le faire, de comment justement produire et cette révélation de l'information qui est inaccessible dans l'espace, c'est-à-dire dans la vie ordinaire. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas on ne pourra pas ni l'apprécier ni le rechercher. Donc c'est pour ça qu'il existe ce cadre-là qui va nous permettre de le trouver. Un cadre, par exemple, ça peut être un atelier, ça peut être aussi une école, mais ça peut être aussi une exploration, une expérimentation que beaucoup d'autographes ont proposé. Et donc il s'agit aussi d'un secret, de ces secrets du monde, de ces dimensions qui sont d'abord l'inconnu récelé, et en deuxième place l'expérience de ce corps qui danse. L'expérience a une place absolument importante parce que c'est dans le moment de le vivre, c'est dans le moment de le faire, de le réaliser, qui va se produire cette découverte de l'inconnu. J'explique par exemple que parfois marcher, une personne qui est bipède peut marcher, et la personne va être complètement maître de cette marche parce qu'elle le fait tous les jours. Une personne qui roule à deux roues, elle sait quel agissement son corps doit faire pour pouvoir se déplacer. Et donc la danse, elle va jouer dans cette connaissance qu'on a de cette action qui est routinaire, qui est ordinaire, qui est complètement maîtrisée. Et la danse, elle va déstructurer justement cette connaissance qu'on a pour en trouver de nouvelles connaissances à l'intérieur de ce segment, de cette séquence. C'est un peu la façon comme j'explique cette expérience qui est la recherche de ces corps, des limites de l'inconnu. Voilà pourquoi dans beaucoup d'ateliers, on a tendance à dire, et il y a un danseur qui va dire à l'autre, et comment tu les sens? Et il se regarde et ils sont peut-être en train de faire exactement la même séquence du mouvement, mais l'un à l'autre, ils vont se poser la question, comment tu les sens? Parce que c'est ces sentis qui va nous donner l'accès à cette vérité. Laurence Loup parlait des vérités, et je trouve que c'est un mot assez adapté, assez juste, pour ces questions qu'on pose au corps au moment de danser. C'est très profond, c'est quelque chose qui est très passionnant à faire. Quand on est vraiment dans le mouvement, on comprend qu'il y a des choses qu'on peut absolument maîtriser, mais qu'il y a d'autres qu'on découvre en même temps qu'on produit le mouvement. Et donc, ça touche aussi à un élément important de la danse contemporaine qui est l'improvisation. Il y a des maîtres qui travaillent avec des structures figées, des séquences de mouvements qui sont figées. Il y en a beaucoup d'autres qui travaillent justement avec, par exemple, des consignes qui vont permettre d'improviser, qui vont permettre d'évoluer dans un espace ou de réaliser une certaine tâche pour trouver cette matière dont on parlait toujours, cette matière de l'inconnu, qui est beaucoup plus riche qu'un mouvement qu'on maîtrise déjà. Et donc c'est là où on revient aussi au maître Nicolaïs, où il parle de l'improvisation comme une sorte de théorie. Parce que c'est justement là la source, la fuente, la source de toute la question d'où trouver l'information pour les danseurs. C'est une source, c'est une expérience. La source est dans ce corps et dans cet événement qui est produit dans une expérience et aussi dans le déplacement d'un regard, du regard d'un témoin ou du regard propre qu'on a sur ce que nous sommes en train de réaliser. Et donc dans la composition, il y a des ratures, des brisures, des rejets, des pertes, des bribes et des déplacements des frontières. Parce que au moment d'écrire, nous devons rejeter des choses, nous devons changer d'avis, nous devons choisir. C'est de ça qu'il s'agit, l'écriture et la composition. Parler aujourd'hui peut-être aussi de Pina Bausch, une façon qu'elle a de poser la question aux danseurs. Quand parfois on regarde des images, des matériaux sur Internet, de comment elle pose la question aux danseurs, des questions qui sont parfois de l'ordre personnel et qui vont être aussitôt convertis en matériaux et dépersonnalisés, transfigurés, pour permettre au danseur de faire un voyage à travers sa mémoire personnelle, et aussitôt ça va devenir un matériau, ça va devenir quelque chose qui va pouvoir être malléable, qui va pouvoir être travaillé, même en provenant de quelque chose de très intime et privé. Pina Bausch, elle pose des questions au corps, et c'est cette méthode-là qui va justement permettre une malléabilité et un travail impressionnant pour ceux qui ont vu les corps dansant des Pina Bausch ou ceux qui ont été entraînés avec elle. C'est quelque chose de absolument éblouissant. J'ai lu un extrait sur une consigne de Pina Bausch sur les pleurs. Mais racontez quand vous pleurez, comment vous pleurez, décrire comment d'autres pleurent autrement. Il y a différentes façons de pleurer. Quel bruit on fait, les raconter et les montrer. Cette méthode est la source des histoires des corps que la danse théâtre Pina Bausch raconte, avec toute la dimension narrative et affective, avec leur ancrage dans les réalités quotidiennes, mais sans vouloir reproduire des scènes réalistes. Et donc c'est tout simplement dans cette structure de montrer comment on le fait. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'une littéralité et d'une représentation théâtrale, mais c'est d'utiliser notre imagination, de les stimuler pour mettre en situation, mettre dans un état le corps afin de le permettre de nous montrer ces lignes qui n'ont pas été encore écrites dans sa conscience, dans sa mémoire, mais aussi dans sa physicalité. Donc voilà pourquoi c'est une pratique, l'improvisation, c'est une pratique indispensable dans l'histoire de la danse, dans la pratique, dans l'exercice de la danse, parce qu'il y a une présence qui est immédiate. C'est un acte qui s'est fait dans le même moment qui s'est produit, qui est saisi dans cette émergence. C'est peut-être ça le noyau, pose comme argument, comme question Laurence Loupe, c'est ça le noyau de la danse contemporaine. C'est le centre de justement la question dans les méthodes, et entre quelque chose qui est prévu et l'imprévisible, entre quelque chose qui est structuré et quelque chose qui est plutôt de l'ordre du chaos. Et bien évidemment, c'est plus le côté chaos qui est interpellé souvent quand on voit des choses de danse contemporaine qu'on ne comprend pas trop bien. On le voit, mais on sait quelque part qu'on comprend quelque chose parce que on est tous assujettis à la gravité d'une certaine façon. Donc c'est ces poids-là qui est une sorte d'information et de message dont nous sommes tous sensibles, bipèdes ou pas bipèdes. Et avec cette réflexion de la composition, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle aventure avec vos oreilles. Et n'oubliez pas d'utiliser vos oreilles, de les exercer.
Alors tu veux faire danseur ?
And push and turn and table tap.
Qu'est-ce que ça te fait au juste ? Lorsque tu danses.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!